La CGPME au cœur des débats, en partenariat avec La Poste. La CGPME au cœur des débats, une émission de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, réalisée sur CFM Radio, animée par Rémi Toroella.
38 milliards d'euros, c'est la somme que les banques ont décidé de réserver aux TPE et PME, très petites entreprises, et petites et moyennes entreprises pour 2010. Cette somme sera affectée aux crédits à moyen et long terme et destinée à financer les projets d'investissement. Mais est-ce bien là que les PME attendaient les banques ? Le quatrième baromètre KPMG-CGPME sur le financement et l'accès aux crédits des PME démontre que 70% des PME ont des problèmes de trésorerie. Ce même baromètre met en avant l'augmentation de 2,6% d'octroi de crédit sur la dernière partie de l'année 2009, alors même que les engagements des banques étaient de 3 à 4%. Objectif non atteint donc. Enfin, sur 2009, les crédits trésorerie accordés par les banques aux PME sont en baisse de 14%. Le quatrième baromètre KPMG-CGPME nous apprend également que les délais d'acceptation des dossiers par les banques sont de plus en plus longs et entraînent de fait les PME vers l'asphyxie. Pourtant, 90% des PME se disent satisfaites des relations avec leurs banques. « Je t'aime, moi non plus » pourrait être le titre de cette émission. Alors, crise conjugale ou divorce entre les banques et les PME ? Pour débattre sur ce sujet, l'adhérente du mois de la CGPME, c'est Michel Darios, commissaire aux comptes pour Dargam Expert et Alba Audit. Il est également trésorier départemental et régional de la CGPME. Michel Darios, bonjour.
Bonjour.
Et notre invité du mois, c'est Daniel Chevrier, président de la Fédération bancaire française départementale et directeur départemental de la BNP Paribas depuis 4 ans. Daniel Chevrier, bonjour.
Bonjour.
Avec nous également Gérard Ramon, président de la CGPME. Bonjour Gérard Ramon.
Bonjour tout le monde.
Et Xavier Reynich, qui se charge de la communication à la CGPME. Salut Xavier.
Bonjour à tous.
Alors, pour commencer, eh bien, nous allons faire connaissance avec l'adhérent de la CGPME. Donc aujourd'hui, Michel Darios, commissaire aux comptes. Alors Michel Darios...
Et expert comptable.
Et expert
surtout
comptable.
Expert comptable.
Voilà. Alors, expliquez-nous déjà un petit peu comment vous en êtes arrivé à devenir expert comptable et commissaire aux comptes.
Oui, en fait, ce sont deux métiers différents, mais qui recrutent dans le même corps professionnel, puisque 99% des commissaires aux comptes sont experts comptables. L'inverse n'est pas vrai, puisque certains experts comptables ont choisi de ne pas pratiquer le commissariat aux comptes. Donc, pour me présenter un peu plus longuement, je dirige un cabinet d'expertise comptable d'une quinzaine de personnes, Alba Sud Montauban, et avec un deuxième bureau à Saint-Antonin-Nobleval, qui se trouve être au centre de votre zone de couverture. Donc j'en profite au passage pour saluer mes clients du secteur, qui seront, j'espère, à l'écoute. Donc le commissariat aux comptes également emploie deux personnes à l'audit, spécialisé dans cette partie. Donc il est évident que je pratique une profession réglementée et qu'à ce titre, quand je parle à mes clients, je suis forcément légaliste. Mais si le professionnel est comblé par ce statut, l'homme l'est moins et surtout le chef d'entreprise. Et c'est la raison profonde de mon adhésion à la CGPME. Parce que à la CGPME, je suis un chef d'entreprise comme les autres, avec 15 personnes, avec des clients, avec des difficultés d'encaissement de mes créances et avec une entreprise à gérer. Donc c'est la raison profonde de mon adhésion à la CGPME. Bon, le président Ramon et mes collègues de la CGPME m'ont demandé de participer à cette réunion parce que de par son sujet, j'étais, semble-t-il, celui qui pouvait le mieux poser le sujet et débattre donc avec notre invité du jour. Donc je les en remercie. Puisque je suis au remerciement, j'en profite pour vous remercier, à vous, CFM, de nous avoir ouvert vos micros, et pour une durée assez longue, puisque je crois qu'il va y avoir une année entière de débats.
Une dizaine d'émissions, oui.
Voilà. Je profite également de remercier La Poste pour son soutien financier, parce que cette opération n'aurait pas pu avoir lieu sans elle. Je remercie aussi M. Chevrier, représentant de la FBF en Tarn-et-Garonne, parce que c'est pas facile aujourd'hui de venir parler des relations banque-entreprise compte tenu du contexte. Et ils font un métier difficile sur le terrain. Et certaines choses qui sont arrivées aux banques ne sont peut-être pas de leur fait, mais pour une grande part, c'est eux sur le terrain qui en assument les conséquences. Voilà, je pense que ça mérite d'être salué.
On pourrait le remercier à double titre, puisque, sans rentrer dans les détails, l'invité que nous avions prévu pour des raisons d'élection a décliné l'invitation au dernier moment et que j'ai pris contact avec M. Chevrier il y a moins d'une semaine, ainsi qu'il a laissé peu de temps pour préparer l'émission. Donc là aussi, je tiens malgré tout à lui adresser nos plus vifs remerciements.
Michel Darrieus, pour aller un peu plus loin sur la présentation de votre entreprise, vous travaillez avec combien d'entreprises sur le département ?
J'ai 400 dossiers de tailles diverses. Il faut surtout parler de la nature des dossiers, parce que être expert comptable en Tarn-et-Garonne, c'est travailler avec la TPE, la PME. Donc c'est exactement la typologie des adhérents de la CGPME. Et je pense pas qu'un autre syndicat ou une autre organisation puisse revendiquer la défense des PME plus que la CGPME, parce que c'est vraiment sa spécificité. Donc on est sur le même terrain. Je rencontre les mêmes gens à la CGPME que dans les entreprises clientes. Donc je connais leurs problèmes. Et il faut savoir que les grands comptes en Tarn-et-Garonne, ils sont pas chez les experts comptables du CRU. Forcément, ils sont chez les grandes enseignes de notre profession. C'est un peu normal. Donc nous, ce qui est important, c'est que nos clients, ça va de l'épicier du coin aux associations, mais toujours avec une gouvernance locale.
Ça fait longtemps que vous pratiquez en Tarn-et-Garonne ?
Oui, mon cabinet a été créé il y a une douzaine d'années. J'ai 18 ans d'expérience en tant que salarié dans un autre cabinet de la place. Mais il y a une continuité parce qu'en fait, je n'ai pas changé mes comportements quand je suis passé d'un statut à l'autre.
Donc vous êtes, en tant que, par votre profession, en première ligne pour voir arriver la crise.
Oui. Hein ?
Vous l'avez vu arriver, vous la voyez encore dans les entreprises aujourd'hui, cette crise ?
Pas plus que les autres. Je dirais que nous, par rapport aux relations avec les banquiers, rien n'a changé pour nous. On les pratique au quotidien, eux nous pratiquent au quotidien. Il y a certaines relations de confiance qui se sont instaurées. Quand on va présenter un dossier à un banquier, si on le présente, c'est qu'on est capable de le défendre. Sinon, on ne va pas le présenter. Il n'y a rien de pire que de faire un dossier et finalement de faire trancher le banquier par un refus, alors qu'on savait que le dossier n'était pas présentable. Donc nous, si vous voulez, cette pratique des choses, pour nous, elle est inscrite dans nos manières de fonctionner et la crise n'a rien changé à tout ça. Voir venir, non, parce qu'on n'est pas des spécialistes de la macroéconomie malgré notre métier. On a une action plutôt locale et terrain. Donc si vous voulez la voir venir, non, je n'aurais pas cette prétention.
Est-ce que vous avez un rôle d'alerte en quelque sorte auprès de vos clients, auprès de vos entreprises ?
On a ce rôle d'alerte, mais au niveau de chaque entreprise, indépendamment du contexte général. C'est-à-dire qu'on a quand même quelques clignotants d'alerte, et notamment on a une mission légale en tant que commissaire aux comptes d'alerte des entreprises pour justement éviter d'en arriver aux procédures collectives et au dépôt de bilan.
D'accord.
Mais on l'a aussi de façon moins formelle en tant qu'expert comptable.
En tant que commissaire aux comptes, une entreprise doit obligatoirement avoir un commissaire aux comptes à partir de 10 salariés, c'est ça ?
Non, pas du tout. Certaines structures de type société anonyme sont obligées, quelle que soit leur taille, d'avoir un commissaire aux comptes. Les sociétés par action simplifiées au-delà de certains seuils, bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, les SARL également et les associations également lorsqu'elles fonctionnent avec des deniers publics. Grosso modo, on peut s'en tenir là, mais la taille de l'entreprise, les seuils ne sont pas les mêmes forcément pour toutes les entités.
Monsieur Aramon, j'ai l'impression que vous voulez intervenir.
Donc, tu vas dire la question, là ?
Non,
je voyais vous
rapprocher du micro.
Oui, je vais rapprocher du micro, non, mais... Bon, je vois que tout le monde s'est remercié, se congratuler, c'est très bien, c'est extraordinaire.
Allez pas trop vite dans le sujet, parce qu'on va y venir après avoir présenté notre invité.
Si ça continue, on va finir par s'embrasser sur la bouche, on n'est pas là pour se battre, mais on est là quand même pour mettre les pieds dans le plat. Par conséquent, moi, ça fait très longtemps que je connais M. le directeur Chevrier, avec qui nous avons de temps en temps quelques altercations de bon ton. Nous nous respectons, nous estimons, nous ne sommes pas toujours d'accord et nous avons l'habitude de nous le dire. Bon, alors moi, je remercie effectivement qu'il soit venu, mais ce que je dirais, est-ce qu'on va remercier un pompier qui va éteindre le feu lorsqu'il est appelé ? Par conséquent, M. le directeur, vous ne m'en voudrez pas. Je suis celui que je suis, vous êtes celui que vous êtes. Je crois que de toute manière, ensemble, nous ferons du bon travail. Pour ce qui est ce qu'a dit Michel, d'abord, je dois constater, franchement, là, ex abrupto, je le dis, comme je le pense, vous avez vu la qualité de l'adhérence sur les PME. J'ai été également impressionné par sa prestation qu'il vient de faire maintenant, en ce qui concerne les entreprises. Néanmoins, il y a toujours des points sur lesquels je ne suis pas d'accord, où il faut apprécier. Quand on parle des commissaires aux comptes, attendez, on ne va pas parler de commissaires aux comptes, n'est-ce pas ? Quand on parle de PME-PMI, où il y a quatre pelés entendus, n'est-ce pas ? Les experts comptables nous coûtent déjà assez cher, n'est-ce pas, pour faire des additions et des multiplications, et nous donner des leçons dont ils n'ont rien à faire, parce que ce n'est pas eux qui assumeront les conséquences, n'est-ce pas ? Et en plus, il faut se payer un commissaire aux comptes, qui vient vous dire que si tous les documents que vous lui avez donnés sont bien vrais, c'est que vous n'avez rien oublié. De toute manière, il approuve les comptes et qu'il vous prend 10 000 euros pour payer tout ça. Je trouve que c'est un peu gros et un peu fort de café.
Bon, monsieur l'animateur, je crois qu'il va falloir le cadrer. Ouais, parce que, comme quoi, les coups n'arrivent jamais de là où on les attend, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas venus du côté des banques, ils sont venus du côté de la CGPME, mais ce n'est pas grave. J'assume, ça fait partie de notre jeu.
C'est vrai, ça coûte cher aux entreprises d'avoir un commissaire aux comptes ?
Pas assez. Pas assez pour avoir des prestations de qualité.
C'est indispensable.
Mais si vous voulez, on peut faire une autre émission sur le sujet, parce que ça aurait moins le mérite de la préparer, parce que là, c'est pas tellement...
Non, mais c'est indispensable, selon vous. Vous n'allez pas me dire le contraire.
Non, le commissaire de compte, c'est pas indispensable. Non. Absolument pas. Alors là, je vous garantis que c'est pas vrai.
Si. Parce que, si, mais...
Ça sert à rien pour les PME, rien du tout.
On demandera tout à l'heure ce qu'en pense le banquier, justement. Si le banquier, c'est indispensable dans la confiance, peut-être, justement, dans la relation de confiance.
Je crois que les banquiers aiment bien les commissaires aux comptes.
Hein, puisque ce qui a été aussi relevé par le quatrième baromètre KPMG-CGPME, c'était qu'il y avait un vrai manque de confiance de la part des banques envers les entreprises. Et je crois que c'est le moment venu de présenter notre invité, donc Daniel Chevrier, président de la Fédération bancaire française pour le Tarn-et-Garonne et directeur départemental BNP Paribas. Daniel Chevrier, un mot peut-être sur la FBF. Comment ça se... se découpe au niveau national ?
Voilà, la fédération bancaire regroupe l'ensemble des banques sur le plan national, dont son président, Monsieur Baudouin Prou, qui est le directeur régional de la BNP Paribas. C'est une présidence tournante, donc et qui se dirige après vers des régions, d'accord ? Comme je citerai surtout Midi-Pyrénées, où il y a donc la FBF Midi-Pyrénées qui regroupe l'ensemble des départements autour de Midi-Pyrénées, ce qui fait 8 départements, pardon, pour des réunions qui sont trimestrielles sur le plan économique, en recevant, eh bien, j'en profite puisque nous avons ici la CGPME et son président, que je connais bien et que je remercie. Donc je vous remercie de votre invitation. Donc nous avons eu sur le plan national 17 réunions à la CGPME, parce que je pense personnellement que les FBF sur le plan national et surtout, je dirais, pour le Tarn-et-Garonne, nous avons besoin effectivement de s'ouvrir et de s'ouvrir au monde économique, donc à la CGPME et à d'autres, pour exposer, si vous voulez, je crois qu'on est rentré tout à l'heure dans le vif du sujet par Monsieur le Président, sur le terrain, des propositions réelles sur les acteurs économiques que sont donc les PME, les TPE et le commerce local aussi.
D'accord. Les FBF, ça regroupe toutes les banques françaises ? Absolument toutes ?
L'ensemble des banques françaises, pratiquement.
D'accord. Et vous-même, vous êtes directeur de la BNP Paribas du Tarn-et-Garonne depuis 4 ans.
Depuis 4 ans, voilà.
Qu'est-ce que c'est votre parcours, à peu près ?
Alors, mon parcours, c'est 15 ans de la région parisienne, un peu la moitié de la France, puisque vous savez qu'au niveau donc des directeurs, nous partons sur des contrats de 4 ans dans différentes régions. J'ai fait donc la Charente-Maritime, j'ai fait le département du Lot-et-Garonne, le département également aussi à Oloron-Sainte-Marie, donc Pyrénées-Atlantiques, et je suis arrivé ici donc à Montauban depuis 4 ans.
D'accord. Alors on va rentrer dans le vif du sujet,
alors,
si vous voulez bien.
Avec plaisir.
Avec un chiffre, Donc, moins 14% de crédit de trésorerie octroyé aux PME sur 2009 de la part des banques.
Je voudrais. Alors, vous avez cité tout à l'heure, effectivement, sur le plan, je vais faire de la macro, mais très rapide, si vous voulez. C'est que ceux qui ont signé une convention avec l'État, donc, a fait une évolution d'encours. L'ensemble des banques ont fait une évolution d'encours de 2,7%. D'accord.
Ouais. Ce qui était prévu, c'était 3-4, hein, la
Alors,
promesse.
Alors, les 3-4, je vais préciser, nous sommes à 4% exactement, parce que nous avons, et vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vais le préciser, l'ensemble des banquiers représente 80% des financements et 20% se font sur le marché. Parce qu'il ne faut pas oublier que 20% aussi nous échappent, donc se traitent par des produits dérivés, donc sur le marché. Ce qui fait exactement, nous avons augmenté de 4,10, c'est-à-dire que nous avons rempli un contrat avec l'État. Et je dirais mieux, si vous voulez, c'est que la performance globale des banques par rapport à l'Europe, parce que je pense qu'il faut le situer aussi, c'est à moins 4,2 en Espagne, moins 1,8 en Allemagne, moins 3,7. Je ne veux pas abreuver de chiffres, hein, mais je voulais positionner le débat. Par contre, je vais venir surtout...
Vous n'avez pas d'accord sur les... C'est pas les mêmes chiffres ou pas la même façon de calculer...
Non, c'est pas la même façon, voilà.
Selon qu'on est du côté des banquiers ou de la CGPME.
Voilà, mais je crois qu'on y reviendra tout à l'heure dans le cadre des concours court terme, parce que je pense que c'est les concours court terme, et je crois qu'il y a eu des possibilités, puisque l'État est intervenu dans le cadre d'Oseo, les banquiers sont intervenus ici également.
Allez pas trop vite, parce que ça va devenir très compliqué pour nos auditeurs.
Voilà, c'est pour ça que je veux simplifier. Alors, je voulais revenir surtout sur les encours de crédit du Tarn-et-Garonne. Voilà. Les encours de crédit du Tarn-et-Garonne...
Ce qu'on appelle encours de crédit, c'est l'ensemble des crédits accordés. Hein, court, long, moyen, tout.
Donc, ils ont été maintenus en 2009 par rapport à 2008. Dans une situation de crise, je dirais que dans cet ensemble, ça me semble correct. Ça me semble pas totalement satisfaisant. D'accord. Mais il faut savoir aussi que les chefs d'entreprise, qui sont autour de la table là, ou qui représentent les chefs d'entreprise, je dirais, aujourd'hui, n'ont pas aussi investi compte tenu de la crise. Donc je crois qu'un maintien ne nous satisfait pas automatiquement, mais reste quand même un bon point dans le cadre de 2009.
Michel Darrieux, vous vouliez intervenir.
Oui, je souhaiterais intervenir parce qu'effectivement, il ne faut pas partir trop rapidement dans les chiffres et les statistiques, parce que comme vous l'avez dit en introduction, ils sont paradoxaux et contradictoires parfois. Donc, par contre, effectivement, il est nécessaire, M. Chevrier, de replacer ce qui arrive aujourd'hui dans un contexte général. On va le résumer rapidement, mais très rapidement. Il y a d'abord eu une crise financière à fin de l'été 2008, début de l'automne. Cette crise financière, bon, on ne va pas en parler, ce n'est pas le sujet, tout le monde sait ce que c'est. Elle a entraîné une crispation du crédit au niveau des banques, forcément. C'est comme un animal échaudé qui tombe dans une marmite. Hein. Elle a déclenché également une crise économique. Donc, il y a deux choses qui se sont passées. Les problèmes de fonctionnement des banques et la crise économique. La crispation du crédit dont je parlais, elle a entraîné, chaque fois que le crédit à court terme ne marche pas entre les banques, il y a un dérèglement au niveau du crédit entre les entreprises. C'est que les entreprises se mettent à se faire du crédit de façon sauvage. Et ça peut entraîner... ce qu'on appelle couramment l'effet de domino, c'est-à-dire des cascades de défaillances d'entreprises dues justement à certains impayés. À force de tirer sur la corde, on ne paie plus et c'est le fournisseur qui casque. Donc, autre élément, autre conséquence, le deuxième aspect, c'est la crise économique avec une baisse de l'activité des entreprises, une baisse donc des chiffres d'affaires, une baisse des marges. Donc la conjugaison de ces deux phénomènes a entraîné l'augmentation des défaillances d'entreprises. Donc les banques ont durci leur position sur le court terme du fait des défaillances. C'est une histoire de cercle vicieux. Hein. Et également, du côté des entreprises, on dit qu'il y a une panne de l'investissement. Mais comment voulez-vous investir quand vous êtes en prise avec des baisses de production, avec des baisses avec du retard dans les encaissements des créances, avec des licenciements à orchestrer et un outil adapté à la situation? C'est pas compatible. Et je crois que quand on a parlé de divorce, je crois qu'effectivement, quand on parle de divorce, c'est qu'on ne se parle plus et qu'on ne s'entend plus, et surtout qu'on ne parle plus de la même chose. Donc je crois qu'aujourd'hui, aujourd'hui, la principale ambiguïté, elle est là. Grosso modo, les entreprises, elles disent, on a un problème sur le financement du court terme, pour parler technique, sur le financement du besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire du cycle d'exploitation, et les banques répondent...
Est-ce que c'est la trésorerie ?
C'est la trésorerie.
C'est la trésorerie,
voilà.
D'accord.
Donc, et les banques répondent en disant... On voudrait bien financer, mais on ne nous présente pas de dossier d'investissement. Et pour cause. Je crois que le principal paradoxe, il est là. Je ne sais pas si M. Chevrier va l'analyser de la même manière que moi. Il répondra tout à l'heure. Mais je crois que sur le terrain, c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend à la CGPME venant de nos adhérents. C'est ce que j'entends chez mes clients. Et c'est ce que je vis personnellement en tant que chef d'entreprise. Donc là-dessus, si vous voulez, alors il y a eu tout un tas de mesures qui sont intervenues dont il faut parler. C'est-à-dire par rapport au crédit inter-entreprise, chaque fois qu'il y a des problèmes de ce style, avec des augmentations de 20% comme l'an dernier des défaillances d'entreprise, les pouvoirs publics réagissent chaque fois en légiférant. Dans ce pays, on légifère, et je crois qu'on légifère beaucoup trop. Donc, la loi LME, pour la citer, cette loi, elle a été là pour réguler les délais de paiement entre les entreprises. Mais il est évident que c'est vertueux comme décision, dans la mesure où ça marche en amont et en aval. En amont avec les fournisseurs, quand c'est imposé par les fournisseurs, ça marche très bien dans les grandes entreprises, et en aval, quand on peut répercuter cette restriction, ce raccourcissement des délais de paiement vers les clients. Mais les entreprises qui n'y parviennent pas, au lieu d'arranger leur situation, elles l'aggravent. Ouais. Et là aussi, cercle vicieux, on tombe dans la défaillance. Donc aujourd'hui, il y a une véritable panne de l'investissement, parce que là aussi, le gouvernement avait annoncé une relance non pas par la consommation, mais par l'investissement. Et l'investissement, il est en panne. Encore les journaux financiers qu'on a pu lire hier l'ont dit, l'investissement est en panne. Donc, M. Chevrier, je crois que des dossiers, je ne sais pas si vous allez être prêt à en voir arriver.
Daniel Chevrier.
Oui, écoutez, je pense qu'il y a plusieurs points, et je voulais relever tout à l'heure, puisque je crois que les chefs d'entreprise ont de bonnes relations avec leurs banquiers, et je voudrais donc revenir sur le cas de proximité, où effectivement, on parle beaucoup de crédit court terme. Je crois que dernièrement, j'étais à une réunion à la préfecture, où les banquiers précisaient une chose, c'est que nous avons fait avancer avec les partenaires présents autour donc de cette réunion, pour porter effectivement ce concours court terme qui, et là je dirais le partenaire, l'État, donc a fait quelques propositions dans le cadre d'OSEO, puisque maintenant les entreprises, et là je m'adresse aux entreprises, je crois qu'il est important qu'elles viennent en communication en amont au niveau des banquiers locaux de la place, soit par leur chargé d'affaires qui traite leur dossier. Je crois qu'il faut s'ouvrir. Alors effectivement, nous avons quelques soucis de communication, mais je crois que c'est dans les deux sens. Et je crois que je suis ici présent pour dire, écoutez, il faut donc voir vos chargés d'affaires pour présenter des dossiers, nous sommes d'accord. Mais il y a des possibilités aujourd'hui d'investissement en court terme, soit sur des investissements de 12-18 mois avec des couvertures OSEO. Nous, banquiers, nous sommes prêts à étudier ce genre d'opérations. Et je voulais répondre tout à l'heure à Monsieur le Président en précisant une chose, c'est que il est vrai que les bilans vont arriver, qu'il y a une cotation Banque de France qui ne sera pas remise en cause par la Banque de France. Donc ça, c'est sa problématique. Mais je crois que les banquiers locaux, et je dirais que les banquiers en général, donc vont intervenir sur la cotation et communiquer la cotation à leurs entreprises. Et nous aurons aussi une approche, je dirais, d'antériorité. Parce que n'oublions pas quand même que nous faisons du commerce, que nous sommes des gens responsables et partenaires de nos entreprises, que nous leur apportons leur soutien, que nous sommes prêts à les écouter, donc à venir vers eux.
Ouais. Mais en même temps, dans ce que vous venez de dire, dans juste l'échange qui vient d'y avoir entre vous deux, Michel Darrieus et Daniel Chevrier, on entend bien Michel Darrieus qui dit on a besoin de prêts sur de la trésorerie, et Monsieur Chevrier qui répond mais on vous prête à moyen et long terme quand non, vous voulez sur de l'investissement.
Non, j'ai précisé tout à l'heure avec une couverture OSEO dont ils savent.
Alors un voilà. Point sur OSEO.
C'est du crédit trésorerie.
OSEO, c'est une banque mise en place par l'État.
C'est une contre-garantie qui peut intervenir. OSEO peut intervenir en contre-garantie ou en financement. D'accord. Donc c'est important pour les chefs d'entreprise qu'ils le sachent. Donc on peut faire du crédit de trésorerie, puisqu'il y a eu des améliorations, et ça Monsieur le Président de la CGPME connaît bien, donc il y a eu des améliorations dans les courts termes. Maintenant on peut faire soit dans le cadre d'une restructuration de ces courts termes, donc de 12 à 18 mois, avec des couvertures quand même à 90%, vous conviendrez, vous le savez, les banquiers, alors bien sûr, il y a un coût, mais les banquiers, si vous voulez, vont vers ce dispositif qu'ils ont demandé, je le rappellerai, en accord avec ici des partenaires. Pourquoi ? Parce que la problématique aujourd'hui des PME, enfin aujourd'hui, je dirais qu'avec Monsieur le Président de la CGPME, ça fait 10 ans que nous en parlons, ça, les problématiques de fonds propres, parce que je n'oublierai pas, et tout à l'heure Monsieur Darrieussecq le disait fort justement, je ne l'oublierai pas, c'est quand même les PME, TPE et commerce local qui garantissent l'emploi et non pas le reste. Donc il est vrai que, après, je dirais un petit mot, et ce n'est pas ma tasse d'été, mais aux politiques à faire leur métier hein, pour effectivement apporter... des éléments associatifs au niveau de nos PME, TPE et commerces locaux, éventuellement. Voilà.
Monsieur le Président de la CGPME, alors, une réflexion.
Il y a plusieurs points. Le premier point, il faudrait qu'on insiste et qu'on fasse le doigt, qu'on appuie où ça fait mal. Que Michel Darrieussecq, au sujet de la LME, a bien présenté le problème. Ce qu'il a oublié de dire, c'est que ça a
LME,
été...
LME, pardon.
Ça loi de modernisation de l'économie.
Oui, c'est les conditions du paiement. Enfin, entre autres, il y a ça de
l'homme. C'est les 90 jours, les délais de 90 jours, etc.
Alors quel est le vrai problème? C'est une catastrophe, monsieur le directeur. Tout le monde en convient pour l'exportation.
Oui.
C'est une imposture. C'est une trahison, monsieur le directeur. C'est une trahison. Oui. On ne peut pas dire dans le même temps que la France... On ne peut pas dire dans le même temps que la France exporte de moins en moins et puis mettre une charge supplémentaire aux exportateurs. Moi, en ce qui me concerne, que je me suis levé le 1er janvier 2009, il fallait que je trouve 150 000 euros pour financer mon crédit à l'exportation. Parce que c'est bien gentil de dire c'est comme ça, c'est pas autrement. On peut prendre des lois et imposer sa loi, si tant est que ce soit possible finalement, quand on est dans son territoire. Mais vous essayerez de l'imposer cette loi à nos amis russes, à nos amis chinois, à nos amis américains. Attendez, de la loi de l'LME, ils n'en ont rien à faire. Et si vous ne voulez pas perdre votre client, monsieur le directeur, surtout dans cette situation où nous sommes aujourd'hui, ben, vous passez par où ils veulent. C'est-à-dire que donc, vous continuez à leur faire leur 120 jours, vous le savez, à l'exportation, oui. Entre le moment où vous faites votre facture, le moment où vous faites crédit sur votre compte, quand c'est 100 jours, reconnaissez que ce sont de bons clients.
C'est vrai.
Crédité que parler, livraison crédit. Bon, par conséquent, ça, je dis que là, le gouvernement ne nous a pas suivis. Moi, j'ai écrit personnellement à François Fillon. Ça a été relayé par madame la députée maire, puisque nous en avons parlé le mois dernier. Il nous a pas entendu et il nous a laissé tomber comme une vieille chaussette. Ce que j'ai noté, monsieur le directeur, et sans qu'on ait pris note, quand même, que je saurais vous le ressortir à l'occasion. Vous avez dit que vous auriez une approche d'antériorité en ce qui concerne les cotations. La Banque de France
pas
a dit...
cotations, l'intériorité non. du client. Du je client. Pense que, si vous me permettez, voilà, parce que c'est
oui,
important.
C'est moi qui me suis mal exprimé. Nous avons pris bonne note tous les deux, parce que nous avons une réponse écrite, que la Banque de France ne changerait pas sa manière de cotation. Parce que ce que nous en avons conclu bêtement, n'est-ce pas, tout le monde l'avait compris, que de toute manière, si on juge quelqu'un dans une situation faste, si on ne calcule pas les critères dans une situation difficile comme celle-là, nécessairement la cotation doit baisser. Ou je ne comprends plus rien. Et vous avez dit, ok, même si les bilans sont dégradés, si la cotation de la Banque de France diminue, nous aurons un regard d'antériorité, c'est-à-dire qu'on considérera que ce client, finalement, il va quand même réussir, et donc on ne sera pas aussi dur, peut-être, en matière d'attribution d'aide et de crédit.
C'est votre interprétation au niveau des cotations. Je n'ai pas parlé de cotation, j'ai parlé d'antériorité, et j'ai parlé de cotation de banque. Puisque, vous le savez très bien, il y a eu dernièrement des réunions où nous allons donc, depuis la loi Brunel 2009, donc nous avons obligation, les banques, et c'est normal, donc de préciser la cotation au niveau de nos entreprises. Donc, ce qui est important, je dirais, quand je parle d'antériorité, c'est que le chef d'entreprise, aujourd'hui, intervienne auprès de son chargé d'affaires banquier, quel qu'il soit. S'il a des problématiques, il faut traiter le sujet en amont pour que l'on puisse intervenir. Parce qu'effectivement, il peut y avoir dégradation d'un bilan sur du haut de bilan. Donc si c'est du haut de bilan, on peut financer des fonds propres, vous le savez bien. Si c'est effectivement sur le cycle dont parlait M. Darrieussecq, justement, on peut intervenir sur de l'avance sur facture, on peut intervenir dans beaucoup de domaines. Et je crois, et j'y tiens, je l'avais dit, je crois, lors d'une réunion à la CGPME, il faut effectivement qu'on se rapproche dans la communication.
Michel, c'est vrai, Darrieussecq.
Voilà, pardon.
Michel Darrieussecq, allez-y.
Mais je vous en prie, le nom. Ouais.
Non, je voudrais compléter, avec la permission du Président, sur ce problème de cotation. Parce que le fond du problème, il faut bien préciser de quoi on parle. La cotation, si elle est maintenue dans les schémas actuels, elle va sanctionner une entreprise industrielle qui aura dégradé ses résultats et ses fonds propres pour maintenir l'outil de travail prêt à la reprise. Donc, maintenir l'outil de travail, c'est quoi ? C'est maintenir l'emploi. Au détriment donc des résultats de l'entreprise et de ses marges. Et ça, si vous voulez, une entreprise qui a ce souci, qui est quelque part citoyenne, je sais que le président n'aime pas ce mot, elle risque d'être sanctionnée par la Côte de la Banque de France, alors qu'une entreprise qui a été un peu plus frileuse, qui a pressenti la baisse d'activité et qui a dégraissé, elle aura toutes les faveurs de la cotation de la Banque de France. Il est là le vrai problème. Donc effectivement, comme le dit M. Chevrier, si les banques la font, cette analyse, nonobstant la position de la Banque de France, tout sera bien. Si elles ne la font pas, il va encore y avoir de la casse.
Il n'y aura pas, effectivement, au niveau de la Banque de France, je crois que je ne peux pas parler, bien sûr, au niveau de M. Charlonnex, le directeur de la Banque de France. Ce que je veux préciser, c'est que le chef d'entreprise, lors de sa sortie de bilan, avec effectivement son directeur financier, doit contacter la Banque de France pour discuter effectivement de cette cotation. Voilà, absolument. Mais je veux encore insister parce que il est vrai que, attendez, la cotation d'une banque, de la Banque de France, est une des références, donc un item pour les banques, mais pas l'item principal, soyons très clairs. Il y a une cotation interne dans l'ensemble des banques que nous utilisons, et par de cela, si vous voulez, dans la mesure où nous avons une discussion, je tiens à le confirmer, parce que je crois qu'il faut revenir à la proximité. Hein. Nous, banquiers, nous sommes quand même disponibles, donc à la disposition de nos clients, de nos entreprises, et nous devons traiter, si vous voulez, l'ensemble, donc, de la problématique. Donc je dis que le chef d'entreprise, lui, connaît sa problématique. Il doit rapidement communiquer avec son banquier pour voir s'il y a une solution. Je dis pas qu'il y aura toujours des solutions. Mais je dis que, vous le savez bien, dans 80 à 85% des cas, les banquiers trouvent les solutions en harmonie avec son client.
Ce que disent les chefs d'entreprise, c'est qu'aussi, lors de ces discussions, quand il y a discussion, c'est que les réponses se font attendre parfois très 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 longtemps, et voire trop longtemps. Et puis après, c'est trop tard quand la décision arrive, qu'elle soit même positive ou négative.
Alors, je l'accepte, parce que sur le plan national, il y a une discussion avec la CGPME, donc j'en profite. Donc, il est vrai que les banquiers ont reconnu qu'il y avait des délais de réponse, lointains, soyons très clairs. Donc, il y a des engagements de prix par la Fédération nationale bancaire sur ce raccourcissement. Et en ce qui concerne ma banque, je peux vous dire que nous avons eu déjà des notes de retour pour effectivement là aller dans des délais raisonnables.
C'est quoi le délai raisonnable ?
Écoutez, le délai raisonnable aujourd'hui sur une décision d'un dossier, mais tout dépend du dossier. Hein. Ouais. Je vais être très sérieux, c'est-à-dire qu'il y a un dossier effectivement, prenons un exemple de 100 000 euros ou de 2 millions d'euros, vous comprendrez bien qu'il y a des analyses. Je dirais qu'en moyenne, une décision devrait prendre 8 jours. Quoi. Voilà, je crois que la décision...
On est plus d'ailleurs sur des décisions qui vont concerner plutôt 100 000 euros, puisque ça correspond beaucoup plus aux très petites entreprises,
tout à fait,
hein, ce problème-là. Hein.
Elle peut même arriver à être, si on fait... Alors, je vais revenir à des crédits de trésorerie qui sont très connus par nos éditeurs, c'est-à-dire la facilité de caisse, le découvert. Bon, et je dirais que ça, c'est un dossier dans les banques où nous traitons un concours. Je dis bien un concours, c'est-à-dire avec des documents à l'appui. Hein, il est très clair que nous souhaitons, et l'ensemble des banques, quand elles accordent un crédit, quel qu'il soit, ce soit au commerce local ou autre, il faut un document écrit avec des conditions bien précisées et des durées donc de concours. Hein. Chez nous, si vous voulez, il est de 12 mois et renouvelable. Je rappelle aussi que c'est de la négociation commerciale. Donc l'ensemble des banques sont prêtes. Je prends un exemple. Hein. Vous utilisez plus. Nous convenons que la prestation du coût doit être plus importante. Vous utilisez moins dans le renouvellement du dossier de crédit. Je crois qu'il faut aussi revoir les conditions. Je crois que nous sommes... Je le disais, hein, on va vers des accompagnements de nos petites et moyennes entreprises. Je pense qu'ils connaissent très bien leurs responsables bancaires.
Est-ce qu'une banque est là pour prendre des risques ?
Mais la banque fait du crédit. Donc quand elle fait du crédit, elle prend du risque. Je regrette. Une base réelle, pour simplifier.
Ça fait sourire. Michel Darrios.
Non. La banque fait crédit parce qu'elle prête l'argent quand même de ses clients. N'oublions pas. Et vous savez très bien que pour faire du crédit, il faut des fonds propres. Voilà.
Allez-y. Moi, monsieur le directeur, j'apprécie beaucoup le fait que vous lisiez les communiqués de presse de la CGPME et que vous nous écoutiez. Mais il faut pas faire une analyse sélective. Il faut aller un peu plus dans le détail. Voilà ce que dit la CGPME à la matière, si vous le permettez, pour répondre à la question qui vient de vous être posée.
Tout à fait.
La CGPME demande à ce qu'aucune garantie autre que celle d'OSEO ne soit imposée à l'entreprise. Toute garantie personnelle de cette entreprise est ainsi à exclure. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est un peu isolé du contexte. Enfin, bon.
Parce que le directeur a dit
non, je pense que je crois qu'il faut.
Une liste impressionnante de cas précis voilà. Sur le sujet. Quand même.
Alors, je crois qu'il faut être précis, puisqu'effectivement, nous parlons de garantie. Donc, si nous parlons de garantie, je dirais aujourd'hui, en tant que banquier, vous le savez bien, hein, je ne vais pas être un philanthrope. Hein, donc, au
non.
niveau.
Non. Ça serait, voilà.
Tout à fait, voilà. Donc, au niveau des cautionnements, vous savez très bien que c'est. On prend. Quelques cautionnements. On ne prend pas des cautionnements, vous le savez bien, sur des positionnements court terme très importants. C'est pas très sérieux. Et je pense que sur le plan juridique, nous serions... Il y aurait quelques problématiques. Non, je crois que nous affectons une garantie, soyons très clairs. Si on fait un crédit d'investissement sur une voiture, où nous affectons effectivement soit le gage, soit dans un bâtiment, mais la garantie du bâtiment, ce qui est raisonnable, quoi. Hein. Donc, je crois que d'ailleurs, la nouvelle loi qui va arriver sur la protection des artisans et autres pour protéger le patrimoine, donc arrive très prochainement par l'État, donc ça veut dire que le cautionnement ça sera très limité, et j'estime que c'est effectivement du besoin en fonds de roulement, donc je dirais plus à même que les banquiers et le chef d'entreprise doivent apprécier le développement de l'entreprise pour savoir intervenir. Soit on intervient en haut de bilan, quand je parle de haut de bilan, c'est les fonds propres, soit on intervient en cycle, et c'est là où... Quand on intervient en haut de bilan, c'est ce qu'on appelle des fois de la restructuration, mais je dirais plus particulièrement de l'investissement pur. Donc il faut connaître le développement de l'affaire pour éviter de revenir sur ce genre de financement. Ce financement permet le développement de l'entreprise. Voilà ce que je voulais dire. Alors au niveau d'OSEO, je voulais le dire, effectivement, bah, écoutez, le banquier, quand il n'a pas d'autre solution pour dire oui, dans le cadre sans garantie, il va se rapprocher, j'ai pas peur de le dire, dans le cadre donc d'OSEO, pour, encore une fois,
qui garantit
70% il faut le savoir. Ouais. Et je dirais que, là, je le dirais à monsieur le président, je dirais que, attendez, nous sommes d'accord que nous sommes des partenaires, donc l'essentiel, c'est de trouver la solution à l'entreprise, dans une problématique donnée, qui est une problématique aujourd'hui de crise, où des bilans sortiront seront bons ou des bilans seront moins bons, et c'est là où effectivement la banque peut devenir médecin, mais elle sera accompagnée.
Michel Darrios, vous voulez répondre?
Oui, en réponse à monsieur Chevrier, enfin dans la continuité, j'ai bien entendu ce que vous disiez, je partage l'analyse, sauf que aujourd'hui il peut y avoir des perspectives qui sont bonnes pour fin 2010 ou 2011 dans certaines activités, avec un passage à vide qui va continuer sur 2010. C'est-à-dire 2010 va être une année difficile. Je crois que les analystes, bon, c'est bien qu'ils se trompent, mais 2010 est attendu comme une année difficile. Donc le temps presse et il y a davantage besoin d'un relais. C'est-à-dire que si effectivement vous prêtez en considération d'un futur et d'une rentabilité de résultats futurs, ce que vous avez dit ou que je crois avoir compris, il faudra effectivement que cet argument prenne le pas sur les risques à court terme, parce que certaines entreprises risquent de se retrouver paradoxalement au tribunal de commerce avec un carnet de commandes qui ne pose pas de problème. Hein. J'ai aujourd'hui le cas d'une entreprise qui est au tribunal de commerce ce matin avec un chiffre d'affaires pour l'exercice en cours de 68% réalisé. Vous vous rendez compte ? 68% du chiffre est aujourd'hui assuré. Elle est au tribunal de commerce parce qu'il y a un relais qui n'a pas fonctionné. C'est ça la réalité.
Non mais, oui, attendez, j'en conviens. La réalité, je pense que la réalité, non, elle est plus précise. Je dirais que les banquiers interviennent régulièrement, et je vais le redire, c'est-à-dire que sur du court terme, on intervient régulièrement dans la mesure où, effectivement, en amont, bah écoutez, moi je le fais dans mon métier courant, c'est-à-dire que ce que je souhaite voir, c'est le chef d'entreprise avec son comptable et discuter effectivement d'une problématique. Je le disais tout à l'heure, je fais la différence entre un court terme qui est de 10 mois à 18 mois, avec des situations de trésorerie bien présenté dans le cadre donc de 10 à 12 mois, voire 18 mois, parce qu'il y a un besoin important de trésorerie, et je crois qu'on le citait tout à l'heure, que ce soit dans le bâtiment ou autre, on a des baisses de 35% de chiffre d'affaires, on a des baisses de marge. Les banquiers sont au courant de ce qui se passe, si vous voulez, dans la région et dans le secteur du Tarn-et-Garonne. Donc je dirais aujourd'hui que nous avons des produits bancaires, excusez-moi du terme, c'est-à-dire des concours bancaires, mais il faut venir, et je crois que c'est dans la communication, les bilans vont sortir là très prochainement. Je crois que déjà, il faut discuter avec ces chargés d'affaires, avec ces représentants des banques locales, pour trouver des solutions. Il y a des solutions. Je ne dis pas qu'il y aura toujours des solutions. Je pense que l'État a mis en place, et on en parlera plus à même, de la médiation qui a apporté. Il y a aussi... à côté, M. Darrieus me présentait effectivement des redressements judiciaires. C'est vrai qu'il y en a. Mais il y a aussi des planifications de sauvegarde. J'en ai connu. Et l'affaire tourne encore. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et c'est pour ça que je m'adresse aux chefs d'entreprise et au commerce local et aux artisans pour dire que n'attendez pas, effectivement, allez, soyons très clairs, l'interdiction bancaire ou tout un ensemble de choses. Je crois qu'aujourd'hui, venez nous voir. Alors, il y a aussi la peur. Hein. Je crois peut-être qu'il y a peur encore du banquier.
Ou l'autocensure, peut-être. Parce qu'on sait ou que de toute manière, voilà. On va nous dire non.
Non, mais alors, si je suis venu, effectivement, à votre radio, et merci encore, c'est pour clarifier les choses. Effectivement, je crois que maintenant, il faut que l'ensemble des banques ont un rôle économique, comme elles l'ont toujours eu. Et je crois qu'il faut prendre... Là, j'assume ma responsabilité. C'est vrai qu'il faut communiquer de plus en plus.
On va pas divorcer tout de suite.
Voilà. Non, je crois qu'il n'y a pas eu divorce. Mais je crois qu'il y a eu éloignement. Je crois qu'il y a eu éloignement et on doit se rapprocher. Je crois que c'est important. Je l'ai... et bon, je cite effectivement la CGPME, mais pour l'instant, j'ai fait donc une apparition et une intervention. Et je dis qu'on a eu effectivement la tentation de dire le banquier est un peu éloigné, un éloigné... de... Je crois que non, pour l'instant, il faut faire un pas de chaque côté. Quoi. Voilà,
je tiens à relayer le message au niveau des entreprises aussi. C'est une réalité, ça a toujours été vrai.
Merci.
Moi, je voulais dire quand même, parce qu'il y a un point... Bon, d'abord, pour ce qui est de Oseo, Oseo, ça coûte cher, monsieur le directeur.
Je sais.
Vous dites qu'effectivement, on paye jusqu'à 90%, mais vous connaissez
c'est
les taux.
C'est un moindre mal, monsieur le président. Je sais.
C'est les taux.
Je sais.
Il faut savoir
c'est
que
quoi les taux, Gérard Ramon?
Mais ça vient s'ajouter, le taux de...
La marge de quelque chose, on sera sur du 5 et 4.
Mais bon, c'est des taux élevés, c'était le...
C'est-à-dire, au taux que fait le banquier traditionnel sur le crédit qu'il va faire, il faut rajouter le taux de contre-garantie qu'il fait au zéro.
Tout à fait.
Et quand vous prenez 90%, ça vous fait de l'ordre de 10%, pas tout au bout de tout.
Monsieur le Président, ne précise pas que le Ribor
est
le plus bas depuis...
Oui,
depuis
qu'il est né. On monte là, on va pas dans les détails, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je dis que c'est cher. D'abord. Deuxièmement, mais ça c'est pas après vous. Je dis que Oseo ce sont des fonds d'État et que par conséquent, à partir de ce moment-là, je crois que l'effort qu'a fait l'État, il pourrait le faire aussi de ce côté-là.
Vous conviendrez, monsieur le Président.
Je suis en train de vous défendre.
Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais si l'entreprise est en difficulté, je pense que quand même Oseo peut leur permettre.
Bien sûr. Je suis un verbal défenseur d'Oseo.
C'est un excellent outil qui a été mis en place.
Juste une question. Qui c'est qui fait appel à Oseo? C'est le banquier? C'est le commissaire aux comptes? C'est le chef d'entreprise qui est au courant?
Ça peut être le chef d'entreprise, ça peut être le banquier, ça peut être l'expert comptable. Voilà.
Non, c'était pour savoir comment le relais d'information se faisait.
Deuxième élément, pour terminer sur Oseo, monsieur le directeur, ce qu'il faudrait, monsieur Chevrier, c'est le problème de la franchise de garantie. On n'en a pas parlé, je suis étonné. C'est moi qui suis en train de faire l'avocat du diable.
C'est exact.
Parce qu'il faut en parler aussi. Parce que des fois, vous êtes un peu frileux. Parce que vous dites oui, mais la situation est difficile. On se mouille.
Il faut expliquer aux auditeurs.
Vous direz, c'est une question.
Michel, voilà, effectivement, le relais de garantie d'Oseo n'entre en fonction que 9 mois après le dépôt du dossier. Ce qui veut dire que la banque, clairement, est exposée au risque pendant ces 9 mois-là. Et 9 mois, c'est long, on vient de le dire. 9 mois dans une période de crise... L'entreprise peut avoir 100 fois de défaillance avant que Oseo prenne effectivement le relais de garantie.
D'accord. L'ensemble des banques ont des partenariats avec Oseo. Ce que je dirais, je vais le redire, c'est-à-dire que dans la mesure, nous on a une approche, si vous voulez, en contre-garantie avec Oseo. Si on présente le dossier dans le cadre d'Oseo, ça veut dire que le banquier, enfin là je m'adresse, le banquier va jusqu'au bout du raisonnement, donc du financement. C'est une évidence. Ou alors, je me dis que là, il faudrait peut-être revoir certaines choses. Je peux pas comprendre qu'un banquier qui effectivement présente une contre-garantie Oseo ne fasse pas, si vous voulez, le court terme pendant la période déterminée sans en avoir la garantie, quoi. Donc là, il peut intervenir et peut-être, parce que c'est sur des montants quand même qui sont peut-être de 50 ou 80 000, dans un cautionnement limité en bonne et due forme. C'est toujours pareil, on peut parler de garantie, hein. Mais je fais qu'expliquer les choses. Mmh. Pourquoi? Pour que, effectivement, un chef d'entreprise puisse avoir les possibilités d'intervenir auprès de sa banque en présentant certaines choses. Mais le banquier doit, effectivement, lui proposer aussi. Nous sommes là, nous avons des produits adaptés pour chaque problématique.
Oui, mais on sait très bien que certains banquiers freinent des quatre fers Hein, et on le sait par les remontées de terrain, certains de nos adhérents nous en ont parlé, où ils ont parlé d'OSEO à leur chargé d'affaires, ils se sont fait gentiment éconduire.
Alors, je m'engage au niveau, écoutez, je viens de prendre la parole, je m'engage au niveau de la FBF à, moi, relayer, si vous voulez, au niveau de mes confrères, la position que j'ai, la position de la FBF, parce que c'est quand même une position de la FBF, hein, où vous avez un engagement, si vous voulez, sur trois critères qui sont quand même le haut de bilan, le court terme et les crédits d'investissement.
Michel Larios.
Oui, tant qu'on est sur OSEO, bon, je le répète, qui est un excellent outil, OSEO, toutefois, n'est peut-être pas la réponse à tous les problèmes, notamment au niveau du petit commerce. Alors, le petit commerce, et c'est quelque chose qu'on m'a demandé de faire remonter de la base à la réunion de jeudi. Donc, OSEO n'est pas une réponse. Pourquoi ? Parce que le petit commerce, grosso modo, il encaisse au comptant. Donc, il n'a pas de problème de besoin en fonds de roulement ou de trésorerie, si vous voulez. Donc, ce qui se passe, là, ils sont victimes d'une baisse d'activité et parfois, ils ne peuvent plus honorer une dette à long terme sur l'achat du fonds du commerce ou l'achat de matériel. Et là, c'est davantage une réponse au niveau d'un allongement de la période de remboursement qui serait plus appropriée. Bon, c'est peut-être pas tout à fait la réponse qui est aujourd'hui. Il faudrait, je pense, effectivement réfléchir à des dispositifs un peu plus spécifiques pour le petit commerce. Parce que ce petit commerce ici en Tarn-et-Garonne, pour rester très local, il est en danger. Il est en danger. Et la personne qui m'a demandé de relayer cette question m'a dit « Attention, allons vite, parce que peut-être certains d'entre nous ne seront plus là à la fin de l'année. »
Est-ce que ces règles, elles sont si strictes que ça? Ou est-ce que, justement, il y a une souplesse qui est laissée aux banquiers, finalement, de pouvoir s'adapter en fonction de son client
Je crois que, voilà, on est rentré dans le vif du sujet. Et moi, je voulais parler également aussi artisans, commerçants, qui ont des problématiques, il faut le savoir, hein, soit sur du financement de stock, soit sur... Monsieur Darioz me disait qu'effectivement, il n'y a pas de problème de trésorerie. Je pense qu'il y a quelques soucis de trésorerie, surtout sur les jeunes qui se sont installés, hein, parce que il y a effectivement un commerce local qui est peut-être plus établi, et qui maîtrise certaines choses. Donc moi, ce que je veux revenir, et c'est là, on est dans la problématique de la communication, parce que on me dit effectivement de rallonger la durée d'un prêt. Mais je peux vous dire que tout banquier aujourd'hui... Il suffit de le rencontrer, de discuter. On peut rallonger de 2 ans, 3 ans. Il faut le savoir. On peut. Puisque maintenant, mais je m'adresse, si vous voulez, à l'ensemble du commerce local. Venez nous voir. On peut vous mettre effectivement des concours adaptés. Alors attendez, hein, adaptés à une situation donnée. Nous sommes d'accord. Parce que n'attendons pas, parce que là, on parle toujours vers le redressement judiciaire. Je veux bien. Mais moi, je parle toujours en amont.
Ouais. Non, mais il est important qu'un bon banquier. Si une entreprise vient vous trouver en vous disant aujourd'hui, c'est parce que c'est la crise, je vais avoir des difficultés en 2010, est-ce que vous pouvez m'accompagner sur 2010 sachant que ça va repartir en 2011
je reste très prudent. Nous sommes dans une situation donnée qui est connue. Je dirais que effectivement, par l'intermédiaire de l'État, puisque les banques ont passé des partenariats donc avec l'État, je crois que le rôle économique est connu, même sur le plan de la localité. Moi, je voudrais revenir au niveau de la communication. Il est important que les gens, les artisans, les commerçants, donc du Tarn-et-Garonne, rencontrent leurs banquiers, discutent de leurs soucis, de leurs problématiques. Je dis pas qu'on va résoudre l'ensemble des problèmes. Non. Là, non, ce n'est pas vrai. Par contre, je pense que ils sont connus. Ils sont connus depuis, voire 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire 10 ans. Attendez, on ne se coupe pas comme cela du jour au lendemain. En plus, il y a des textes, hein, donc il faut être précis. Hein. Il y a des dénonciations de concours, je préfère le dire, c'est 60 jours sur une facilité de caisse. Donc, il faut le savoir, sur des moyennes. Donc, non, nous sommes des gens sérieux. C'est-à-dire que, on discute, mais je crois que il n'y a pas de divorce. Mais on s'était un peu éloigné des deux parties. Donc je les invite à se rapprocher.
Michel Darioz, est-ce qu'il y a d'autres points
message, oui.
Est-ce qu'il y a d'autres points que vous avez abordés avec la base de la CGPME
tout à fait, j'allais
et que
y
vous
venir.
Voulez remonter maintenant?
Merci. Il faut le faire parce que là, on tombe davantage de « je te quitte parce que tu ronfles », mais il faut quand même le dire. la base ne me pardonnerait pas de ne pas le dire. D'abord, par rapport aux... Il y a les frais. la problématique des frais. Alors, on a des situations de trésorerie dégradées qui entraînent des suppléments d'agio, qui entraînent des facturations de services, des lettres de relance par certaines enseignes, peut-être pas partout, des lettres d'avis de rejet de chèque qui sont facturées. On m'a parlé de 40 euros par lettre, etc. Donc ça, si vous voulez, quand la situation est dégradée, quand le couple commence à chanceler, c'est la petite chose qui ajoute à la problématique. Ouais. Voilà. Donc ça, là-dessus, c'est mal vécu parce que c'est devenu quelque chose de pratiquement de quotidien pour certaines entreprises et ça ajoute un petit peu à la problématique. Et les entreprises ont une impression générale de sanction alors qu'elles auraient besoin de concertation. Je sais bien que ça va à l'encontre de ce que vient de dire Monsieur Chevrier et qu'il faut améliorer ça, c'est bien entendu. Mais il va falloir, il y a beaucoup de travail, il va vraiment falloir se mettre à dialoguer. Et c'est vrai que nous, CGPME, ou nous, experts comptables, puisque je suis les deux, on a peut-être un rôle pédagogique à jouer à ce niveau-là. Et je crois qu'il faut peut-être apprendre d'une certaine manière, pardon aux auditeurs, mais il faut apprendre à se comporter et à prendre certaines problématiques en main, bien en amont, je suis d'accord avec vous.
Quand c'est trop tard, quand on vient vous voir dans l'urgence, messieurs les banquiers, vous n'aimez pas ça, hein, Daniel Chevrier.
Et ils ont raison.
Donc, de toute manière, tout ce qui est de l'ordre de ces frais-là, c'est pour aussi dire à vos clients, ben là, je suis pas d'accord, je suis pas content. La prochaine fois, tu viendras me voir beaucoup plus tôt.
Oui.
Non, je pense que je pense que l'accompagnement régulièrement se fait auprès de nos entreprises, auprès du commerce local, auprès de la tarification. Je crois que la tarification, parlons-en, effectivement, il y a eu, si vous voulez, une analyse faite par l'Europe qui présentait différentes positionnements sur la facturation en disant que la France était l'ensemble des banquiers avait une facturation élevée. Bon, bah écoutez, je ne pourrais répondre, je serais prudent parce que l'ensemble des établissements ont des prestations différentes et des facturations différentes. Ce que je peux expliquer dans le cadre d'une facturation, c'est-à-dire que prenons le cas d'un commerce local, je crois qu'il faut être, et je crois que nos auditeurs nous écoutent pour ça, donc dans le cadre d'une facilité de caisse de 20 000 euros, c'est-à-dire 20 000 euros ou 10 000 euros ou 5 000 euros, vous avez un concours établi, nous sommes d'accord, qui est figé sur un an. Donc avec des documents à l'appui, avec une tarification présentée. Alors je prends l'exemple, il y a une autorisation de 20 000 euros, il est à 22 ou 23 000 euros, il y a une autre tarification dans certaines banques. Je n'ai pas peur de le dire, mais je crois que c'est le chargé d'affaires qui doit déterminer et qui doit présenter la tarification. Alors après, on peut nous dire effectivement tarification élevée. Écoutez, je vais être dans le commerce local, il y a des marges. Nous sommes des banquiers, nous sommes une entreprise commerciale. Donc nous avons des prestations, nous facturons nos prestations. Et j'irai plus loin parce que nous l'avons demandé sur le plan européen, et je crois que ça sera mis par Bâle 3, où il y aura intervention de la notion de risque. Il est normal qu'il y ait des facturations adaptées à un contexte et à une facturation. Bon, voilà, donc après on peut en discuter, mais je crois que, écoutez, la transparence, elle existe, puisque tous les ans on envoie un relevé, nous sommes en France les seuls. Même les Anglais ne font pas.
Et en période de crise, être une entreprise commerciale citoyenne, même si monsieur Ramon aime pas ce mot-là. Non, je sais pas, c'est monsieur Chevrier qui a dit
non,
ça.
Non, c'est moi. Il faudra un droit de réponse parce que cela risque d'être mal interprété par mes auditeurs, c'est pas ce que ça veut dire. Donc je laisse finir monsieur le directeur et après que vous prenez la parole, ouais. Si vous le permettez.
Vous me posiez une question.
Oui, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que je dis, en période de crise, on le voit bien au travers des médias aujourd'hui, tout le monde crie sur le banquier. On dit, le banquier, il joue pas le jeu. En période de crise, il pourrait être un peu plus citoyen, baisser ses marges, baisser ses frais, etc.
Nous
etc.
baissons les frais, moins 5,3. Nous baissons les frais sur l'ensemble des banques. Je le dis, les banquiers négocient. Je crois que Monsieur le Président est là, je crois que les chefs d'entreprise qui viennent nous voir négocient les conditions, négocient les taux, ce qui est normal. Et je dirais même, puisque je parle au nom de la Fédération bancaire, écoutez, je crois que les chefs d'entreprise doivent traiter la concurrence, donc voir ce qui se passe. Parce que j'estime, et je suis un des grands défenseurs de poules bancaires pour des entreprises d'un certain niveau, pour des tas de raisons, parce que je le dirais toujours, c'est que nous sommes des partenaires. Donc quand on dit partenaire, il y a une facturation, mon collègue à côté, il y a une facturation bancaire, on peut en discuter. Sachez-le, on peut en discuter. Après, il y a la facturation des particuliers cartes, c'est autre chose.
Monsieur Chevrier, oui. Vous avez tout de même plus de facilité d'encaissement que les autres partenaires.
Oui, c'est vrai. Oh, on peut vous proposer des prélèvements si vous voulez directement chez vos clients. Donc ça, je peux répondre. Donc non, là, il n'y a pas de problématique, si vous voulez. Mais à ce niveau-là, non. Je dirais, je veux revenir, et surtout sur le plan local. Je veux que on insiste très sérieusement, parce que je crois qu'on parle du local, donc du département du Tarn-et-Garonne, dans des investissements de chefs d'entreprise et de commerce local et d'artisans. Et je le sais, on est au courant, puisque je crois que dernièrement, il y avait quand même plus 30% encore de liquidation judiciaire. Bon, on fait à part de certaines problématiques que nous, tous autour de la table, nous connaissons. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des possibilités de nos interventions. Voilà, donc il faut venir nous voir régulièrement.
Allez, Gérard Ramon, en réponse à cette attaque sur la citoyenneté.
Comme M. le directeur, d'ailleurs, fait attention à un certain nombre de choses qu'il a dites, il a reprises. Il faut être méfié, surtout quand c'est dit par un de mes adhérents, qui dit que le président de la CGPME ne veut pas entendre parler d'entreprise citoyenne. Pas du tout. Par définition, la PME-PMI est une entreprise citoyenne. Parce que à partir du moment où vous avez une PME-PMI qui quitte un petit village ou une grande ville, c'est toute l'économie qui se meurt. Et c'est pas la suppression de la taxe professionnelle qui a été remplacée très avantageusement par la CET, n'est-ce pas, qui changera les choses. Non, ce que je dis quand je dis que je n'aime pas qu'on mette à toutes les sauces l'entreprise citoyenne, c'est qu'aujourd'hui on veut faire supporter à des entreprises de moins de 20 salariés le problème des handicapés, le problème du stress, le problème de la discrimination, le problème de l'environnement, le problème de la santé, qu'en passe des meilleurs. Je dis non, arrêtez. Je dis parce que si les PME-PMI de moins de 20 salariés, qui représentent 94% des établissements du privé de notre région Midi-Pyrénées, s'ils s'occupent de ça, les patrons pendant ce temps, comment ils font pour trouver des commandes, comment ils font pour trouver l'argent, comment ils font pour s'occuper de leur personnel. Par conséquent, par définition, la PME-PMI est une entreprise citoyenne. Je voudrais revenir quand même, monsieur le directeur.
Et ça risque d'être pas loin du mot de la fin, monsieur le président.
Oui, bien d'accord. Le mot de la fin, c'est pas tout à fait celui-là. Monsieur le directeur, je voudrais attirer. Michel Darios a fait remonter les remarques de nos adhérents de la réunion que nous avons eue jeudi dernier. Je voudrais attirer votre attention sur un point. Il faut savoir qu'en Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, monsieur le directeur, 72% des établissements sont des commerces et des services. Et ça représente 62% de l'emploi. Or, qu'est-ce que nous... Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre clientèle, les gens dont nous devons préoccuper, ceux-là, on ne s'en est pas préoccupé pendant la crise, monsieur le directeur. Je suis bien placé pour en parler. Je suis président de la CGPME, nous sommes occupés des PME-PMI. Et on a parlé beaucoup d'études. Mais ceux-là, ils ont été laissés pour compte, et c'est un peu peut-être ce qui a fait que vous avez un peu forcé la dose. Mais je ne veux pas revenir là-dessus, sur les charges, sur les frais, etc. Non, je voudrais vous dire.
Non, je ne peux pas laisser passer si vous voulez forcer la dose. Je crois que vous le savez très bien. Et là, l'ensemble des établissements bancaires, bon, appliquent leurs prestations de frais. Ça, c'est très clair. Je ne peux pas parler au nom de la FBF dans ce cadre-là, puisque c'est différent, puisque moi-même je suis banquier, donc dans ma banque on pratique d'une façon, dans d'autres banques, je suis d'accord avec vous, on pratique d'une autre façon. Peut-être que nous arriverons à l'uniformisation, pourquoi pas, on peut le souhaiter à la limite. Mais ce que je veux intervenir, même pour artisans, commerçants locaux, écoutez, nous sommes dans la négociation, il faut le savoir. Alors il y a effectivement des prestations, quand il y a prestations de bonne facture, il y a facturation, soyons très clairs. Par contre, il peut y avoir effectivement pas de prestation. Et là, ben, je dirais, écoutez, le commerçant va voir son banquier. Et écoutez, je suis directeur et je le pratique régulièrement. Nous faisons des efforts aussi parce que nous accompagnons quand même, je crois, bon, vos 72%, on les accompagne. Il est vrai que, je vais être très clair aussi, c'est que sur certains, et vous le savez bien, on ne peut plus faire grand-chose. Mais c'était déjà connu avant la crise. Donc ça, je vais être très clair aussi sur le message. Je crois que si on veut avancer tous ensemble, que nos clients, qu'ils soient commerçants, artisans, viennent voir leur chargé d'affaires. Ils ont une référence qui est le chargé d'affaires de leur banque. Et après, nous sommes dans la négociation commerciale.
Eh ben voilà, on va arriver au bout de cette émission. Je vous redonne la parole, Michel Darios. Est-ce que Daniel Chevrier vous a convaincu dans cet échange?
Non, il a convaincu qu'il fallait reprendre un dialogue d'une meilleure qualité. Ça, c'est une réalité. Bon, quant à forcer la dose chez notre président, tout le monde sait que c'est une seconde nature. J'espère que ça ne nuira pas à la suite de nos discussions. Moi, je voudrais quand même relayer, au terme de notre réunion de jeudi, J'ai posé la question à la base qui était là, il y avait une trentaine de personnes, je leur ai dit comment va-t-on conclure ? Bon, ça ne veut pas dire faire le compte rendu avant la réunion, hein, mais comment va-t-on conclure ? Mais la conclusion du message à la banque, c'est de dire ouvrez. Alors ouvrez, c'est très large, ça veut dire ouvrez le crédit, bien sûr, mais ouvrez aussi peut-être le dialogue, hein, c'est-à-dire recevez les gens, ne communiquons plus par frais interposés, etc. Et il faut, je voudrais conclure également sur un chiffre que j'ai pris dans un journal financier, je ne sais pas si on a le droit de les nommer.
Oui.
Ouais, c'est La Tribune d'avant-hier qui a dit, La Tribune a un blog au niveau d'Internet, et dans le cadre de ce blog, les chefs de PME, les chefs d'entreprise ont été interrogés sur la question suivante, êtes-vous prêt à sacrifier votre marge pour sauvegarder l'emploi ? Et la réponse a été sans appel, elle a été à 75% en oui. Donc aujourd'hui, les chefs d'entreprise PME, PMI et les TPE, ils disent, il n'est pas question de toucher à l'emploi. Ça a toujours été le message de toutes les entreprises patrimoniales. Et ça le reste, même dans une période difficile. Donc j'en reviens là, vous avez devant vous, messieurs les banquiers, des entreprises qui sont prêtes à faire des efforts qu'il faut et qui ne sont pas disposées à vous demander à vous seuls les efforts, mais qui sont prêtes, elles, à faire des efforts. Donc, surtout, entendez ce message et aidez-les. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire.
Gérard Ramon, un mot de conclusion sur cette émission.
Alors, je voudrais conclure sur autre chose, si vous le permettez. Voilà, nous avons débattu, nous en avions parlé, monsieur le directeur, avant cette réunion. Nous en avons parlé de la réunion de la CGPME. Je crois qu'il faut avoir une autre analyse de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La situation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je dis tout à l'heure, nous ne sommes plus en situation de crise, puisque la crise sera désormais permanente. Pourquoi je dis ça ? Effectivement, il y a eu une catastrophe qui s'est passée. Et le paysan a été bouleversé. Et dans ce paysan bouleversé aujourd'hui, nous cherchons des solutions comme si le paysan allait revenir ce qu'il était avant, et donc nous ne trouvons pas de solution. Je dis voilà, il faut se préparer aujourd'hui à vivre dans un monde nouveau et considérer que cette crise, c'est la situation normale. Et voilà ce que je veux dire par là, en conclusion, c'est que de toute manière, ce n'est pas avec les mesures que l'on prend maintenant, qui sont des mesures anciennes, que nous résoudrons le problème du chômage. Ça fait 30 ans que j'entends dire, plus de 40 ans que j'entends parler de ce chômage-là, et les seules solutions qui ont été trouvées jusqu'à maintenant, c'est de dire aux chefs d'entreprise, voilà, on va vous donner quelques sous, quelques fifrelins, vous allez embaucher du personnel. Et pour vous inciter à embaucher, non. Le problème aujourd'hui a changé. Nous sortirons de cette crise, nous en sortirons, et nous pourrons continuer à évoluer dans ce monde qui sera ce qu'il est aujourd'hui, et qui perdurera, et qui, compte tenu de la concurrence, qu'en investissant massivement, qu'en travaillant sur la recherche et le développement, qu'en ayant du personnel professionnel, professionnalisé, qui sera polyvalent, je parle pour les PME, polyvalent, et donc il faut revoir complètement, monsieur le directeur, je parle notre manière de fonctionnement. Parce que il faudra trouver des solutions pour consolider les fonds propres, pour faire de l'investissement. Voilà. Après, quand on aura trouvé pour consolider les fonds propres, on se débrouillera à la trésorerie.
Et pour finir, Daniel Chevrier, vous avez le mot de la fin.
Alors, le mot de la fin, bah, écoutez, au niveau des banques, nous sommes engagés dans la situation économique. Je crois qu'au niveau de la FBF, nous l'avons précisé. Et sur le plan local, je le précise également. Écoutez, le crédit est ouvert. C'est très clair. Hein, l'année dernière, mais en ce qui concerne mon établissement, le crédit a été ouvert tant sur la clientèle particulière, commerçante, PME et autres. Donc les banquiers ont leurs études, c'est vrai. Mais sachez que je crois, et je tiens à le redire, il faut communiquer de plus en plus, il faut communiquer en amont. C'est important pour les deux parties, hein, je le crois. J'en fais effectivement... aujourd'hui, je crois qu'on était un peu en retrait. Mais je crois que c'est à double sens, hein, soyons très très clairs. Donc ça c'est le premier point. Je voudrais revenir quand même sur Monsieur le Président, parce que on parle beaucoup des banques dans les médias. C'est vrai, nous sommes, il est vrai, exposés, mais nous sommes prêts à discuter et nous maintenons toujours nos entretiens. Mais je dirais aussi qu'il y a une problématique sociétale. Hein. Je dirais que bon, il faut que les entreprises aussi se rapprochent, et même le commerce local, sur les problématiques sociétales, c'est-à-dire bon, nos chers hommes politiques, nos chers dirigeants économiques, etc., hein, qui peuvent apporter également un plus dans le cadre économique local et régional. Voilà. Donc nous sommes prêts, nous banquiers. Ben écoutez, venez nous voir, on discute et on est prêt à discuter avec l'ensemble des partenaires économiques.
Xavier Rény. Yanis voulait intervenir.
Oui, là, je voudrais sortir du sujet qui nous a mené à nous rencontrer aujourd'hui. Je voudrais faire l'annonce officielle aujourd'hui de ce qui sera, sans nul doute, l'événement économique de l'année en Midi-Pyrénées, puisque donc le 5 mai à Toulouse, nous avons le grand honneur d'annoncer l'organisation donc de la venue de Monsieur Jean-François Roubaud, donc président national de la CGPME, et qui aura comme invité, là aussi, pour venir débattre avec un parterre de 400 à 500 chefs d'entreprise représentatifs de la région Midi-Pyrénées, il aura comme donc interlocuteur Monsieur Luc Ferry, ancien ministre donc de l'Éducation nationale, et Claude Allègre, qui lui aussi, bien sûr, fut ministre, je crois, sous Monsieur Mitterrand, oui. Si j'ai bien souvenir, ministre de la Recherche, je crois. Oui. Donc, le 5 mai. Subdeco, amphithéâtre Subdeco à Toulouse. Voilà, c'est un événement qui marquera cette année 2010.
Ok, merci. Alors, comme je posais la question en début d'émission, crise conjugale ou divorce?
Bon, il n'y a pas de
crise
divorce.
Conjugale.
Nous sommes des partenaires.
Petite crise conjugale. Voilà, on chante.
Même pas.
On n'a qu'à faire chambre à part pendant 2-3 nuits, puis après on revient ensemble.
Absolument. Voilà.
Merci à vous. Merci, messieurs. C'était la CGPME au cœur des débats. À dans un mois.
La CGPME au cœur des débats. En partenariat avec La Poste. La CGPME au cœur des débats, une émission de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, réalisée sur CFM Radio, animée par Rémi Toroella.